Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Pendant la pandémie et pendant les mois de confinement, ils ont assuré l'accès à ces informations essentielles sur la maladie. Ils ont aussi maintenu ces liens qui nous connectent dans des sociétés sans repères. Comment les médias ont-ils passé l'épreuve du Covid-19? C'est ce que nous allons voir avec quelques situations emblématiques, en commençant par la BBC, la British Broadcasting Corporation, le grand groupe britannique de radio et de télévision publique. Avant la pandémie, le service public essuyait les foudres du gouvernement conservateur de Boris Johnson, qui annonçait déjà des coupes budgétaires drastiques. Et puis l'épidémie est passée par là. La Bib, ou Anti, comme l'appellent avec affection les Anglais, est devenue indispensable et a vu ses audiences télé grimper en flèche de 44%. Cela sera-t-il suffisant pour garantir son futur? Pas si sûr. À Londres, Marie Billon.
Pendant la pandémie, la BBC n'a pas lésiné sur l'autopromotion. Régulièrement, avant les informations aux heures pile, on pouvait entendre ces journalistes tête d'affiche expliquer leur rôle central.
Okay. Ready.
One day, I will tell you there are no new cases.
Un jour, je vous dirai qu'il n'y a plus aucun nouveau cas, que les hôpitaux de campagne sont démontés. Nous prendrons le temps de la réflexion et pour penser à tous ceux que nous avons perdus. Un jour, nos enfants reverront leurs amis et retourneront enfin à l'école. Mais d'ici là, nous serons là pour vous aider à comprendre tout ce qui se passe.
And until then, we'll be here to help you understand what's happening. Every step of the way.
Bref, la BBC est bel et bien une institution incontournable au Royaume-Uni. Jean Seaton est historienne spécialiste des médias, l'une des historiennes officielles de la BBC.
La BBC a cette capacité de divertir et distraire, enthousiasmer et réconforter à être avec les gens. C'est ce qu'elle fait depuis sa création en 1926. C'est un peu comme la monarchie. Elle est là pour tout le monde et elle doit pouvoir comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Britanniques et faire attention à eux. Quand tout le monde a eu des envies de nature, par exemple, la BBC a proposé des programmes pour apprendre à planter des graines dans un pot à la maison.
Et avec sa vingtaine de chaînes de télévision et de radio, la British Broadcasting Corporation a plus d'une corde à son arc. Pendant la crise, la corporation est allée bien plus loin dans ses responsabilités éducatives. Elle a multiplié ses programmes Bite Size, des petits cours accessibles en ligne et en vidéo pour les enfants de tout niveau scolaire.
Hey, we really got a beat going now.
Huh? My beats don't sound quite right. What's going on?
Beats me. I told you guys we could do it. Our song is gonna knock Mr. Piper's socks off.
Ici, un petit dessin animé avec Beethoven en invité explique ce qu'est le tempo et la durée d'une note. Une autre vidéo sur la même page est faite par un jeune musicien qui explique en quelques mots simples l'importance de la cinquième symphonie.
Let me tell you about a few of my favorite notes. Sound familiar? Some people say these eight notes.
Il y a aussi des BBC Bite Size pour les maths, les langues et la géographie, l'histoire et la littérature. Qui dit mieux ? Pas grand monde, même le gouvernement de Boris Johnson qui ne ménageait pas ses critiques avant la pandémie a dû admettre que la BBC était incontournable. Jean Seaton.
La BBC était vraiment aux côtés des Britanniques pendant cette période, mais avant ça, elle a souffert d'innombrables et insupportables attaques, notamment de la part du gouvernement actuel qui refusait d'envoyer ses ministres pour répondre à des questions dans la matinale de Radio 4. Mais les politiques sont revenus en courant sans s'excuser parce que la BBC est la meilleure plateforme d'information publique.
I think we now move to questions from the media. So the first question is from Vicky Young at the BBC.
Lors des conférences de presse quotidiennes du gouvernement, la BBC est désormais toujours la première à qui le ministre qui officie accorde la parole. Mais Anti n'est pas encore sortie du bois, comme on dit. Elle a souffert de grandes coupes budgétaires et d'autres sont encore à venir. Pour l'instant, en tout cas, peut-être tant que la couverture du Brexit ne revient pas en première ligne, elle a retrouvé sa place dans le cœur des Britanniques.
contre-paysage en Hongrie où le gouvernement autoritaire de Viktor Orban a saisi l'occasion du Covid-19 pour restreindre un peu plus la liberté de la presse par le biais d'un nouvel article du Code pénal. Désormais, toute personne qui diffuse de fausses informations sur le virus encourt jusqu'à 5 ans de prison. Plus qu'inquiétant, dans un pays où le gouvernement traite régulièrement les journalistes de menteurs ou d'activistes de gauche, à Budapest, Florence Labruyère a voulu comprendre les conséquences de cette nouvelle loi.
Gare aux diffuseurs de fake news. Celui qui diffuse de fausses nouvelles qui pourraient entraver la lutte contre l'épidémie ou qui répand des informations alarmistes risque plusieurs années de détention. Les médias indépendants sont inquiets. Cette nouvelle législation est peut-être un retour à la censure. Peter Sauer, directeur de l'hebdomadaire économique Havegi.
Le problème est que ces nouvelles dispositions du code pénal sont rédigées de manière très vague. Cela permet au juge de décider arbitrairement si une information est vraie ou fausse ou si une nouvelle est alarmante au point de provoquer des troubles.
La menace est devenue réalité. Le 12 mai, un homme de 64 ans a été arrêté pour avoir qualifié Viktor Orban de dictateur sur les réseaux sociaux. Le lendemain, un militant d'opposition a été interpellé. Il avait écrit que les hôpitaux renvoyaient à la maison de nombreuses personnes gravement malades afin de faire de la place aux patients atteints du Covid. Or, des milliers de malades ont effectivement été évacués des hôpitaux. Les deux hommes ont finalement été relâchés, mais seulement après avoir été traînés dans la boue par les médias pro-gouvernementaux. Pour Zoltán Batka, journaliste au quotidien de gauche Népszava, l'opération relève de la communication. Le gouvernement hongrois veut faire peur, mais il n'a pas l'intention d'emprisonner les journalistes.
Viktor Orban n'est pas vraiment un dictateur. Il veut qu'on le voie comme ça. Beaucoup d'Occidentaux croient à cette image, mais c'est faux. Je ne pense pas qu'Orban va utiliser ce nouveau texte contre les journalistes. Il veut faire parler de lui et montrer ses muscles européens. Pour l'instant, il n'applique pas la loi.
Pour ce journaliste, le problème est que depuis plusieurs années, il devient difficile de trouver des personnes qui veulent bien parler, même de manière anonyme. La nouvelle loi ne fait qu'accentuer le phénomène.
Parfois, je dois rencontrer les gens dans des endroits bizarres, dans un cimetière, comme dans un film, ou bien dans une maison vide ou une station de métro. Je travaille un peu comme un espion.
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé que l'état d'urgence pourrait être levé fin juin. Mais la modification du code pénal restera en place. Preuve que Viktor Orban voit au-delà de la pandémie et se réserve le droit d'utiliser sa nouvelle arme.
La Russie est bien mal placée dans le classement de la liberté de la presse, 149e sur 180 dans le classement mondial. Avec la fin du confinement, c'est bien un ovni médiatique qui sort son épingle du jeu. Le site culturel et pédagogique Arzamas a capté une audience inédite, 9 millions de vues pour une vidéo YouTube sur la Rome antique par exemple. Besoin de se changer les idées, de se ressourcer à Moscou, Étienne Bouche.
Кто же такие татары и откуда они взялись?
Lorsque le confinement a débuté en Russie, l'équipe d'Arzamas a décidé d'offrir un abonnement d'un mois à ses contenus sonores. Irina Kalitievskaya est rédactrice en chef. Elle travaille pour Arzamas depuis son lancement il y a 5 ans et ne s'attendait pas à un tel succès. L'application mobile est largement téléchargée, l'audience de la radio multipliée par 3, le site internet, lui, a doublé sa fréquentation.
À l'évidence, les gens ne savaient pas trop quoi faire et cherchaient à s'occuper. Les infos étaient très anxiogènes et ne permettaient pas de s'y retrouver. Parce qu'entre les chiffres, les discussions sur le virus, la manière de la combattre, les infos étaient surabondantes, contradictoires, incompréhensibles. Je crois que d'une certaine manière, nous offrons aux gens la possibilité de laisser de côté l'actualité et de souffler.
Au mois d'avril, Arzamas bénéficie d'une publicité inestimable. Dans une vidéo à l'audience record, Yuri Dudy, le youtubeur le plus célèbre de Russie, fait part de ses recommandations pour surmonter le confinement.
J'ai regardé deux super vidéos d'Arzamas. la Rome antique en 20 minutes et la Grèce antique. C'est à cela que doit ressembler un cours d'histoire en 2020.
La paix romaine, Pax Romana, fut la première manifestation de la mondialisation. Comment tout cela s'est produit ? Parcourons ensemble 12 siècles d'histoire romaine avec notre guide.
Avec plus de 9 millions de vues, son condensé de la Rome antique est à ce jour le plus gros succès de sa chaîne YouTube. Arzamas, c'est le nom d'un cercle littéraire pétersbourgeois du 19e siècle. Mais c'est aussi celui d'une ville de province. Car le projet ne vise pas uniquement les grands centres urbains et a l'ambition de s'adresser au plus grand nombre.
On se représente toujours un auditoire profane. On pense à quelqu'un qui n'a pas été en contact avec les humanités depuis la fin de sa scolarité, mais qui pourrait manifester de l'intérêt pour ces sujets. Et pour cela, il faut s'adresser à lui dans sa langue. D'une part, nous faisons en sorte de retenir l'attention et de montrer que ces disciplines sont intéressantes. Et d'autre part, nous consacrons beaucoup d'énergie à adapter ces contenus pointus afin de les rendre accessibles.
Авангард начнется в 1910 году с выставки объединения «Бубновый валет».
Les cours en ligne et les exposés sont préparés par des spécialistes, des universitaires, des anthropologues, des critiques. La variété des sujets abordés fait d'Arzamas une invitation à la curiosité intellectuelle. On y parle de l'art russe du XXe siècle, du théâtre élisabétain, des cultures du monde ou de philosophie. Un projet qui revendique une démarche éducative et qui entend, à sa manière, accompagner un changement de société.
Et comment notre partenaire, l'hebdomadaire Français Courrier International, a-t-il vécu ces derniers mois de crise ? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Ingrid Tarvat. Bonjour.
Bonjour Frédéric. Toute l'équipe a été effectivement très mobilisée et mobilisée à distance pour répondre à une soif d'informations et d'analyses internationales très particulière pendant cette pandémie. Et on a du coup battu des records d'audience à la fois pour le site et pour la version papier de l'hebdomadaire avec plus 23% de ventes pour l'édition papier.
Et parmi les articles à ne pas rater cette semaine, un long article qui parle de la Grèce, un pays qui a quand même bien résisté à la pandémie.
Oui, vous avez raison Frédéric. La Grèce a été plutôt épargnée par le coronavirus. Et cela a été possible grâce à un certain Sotiris Tsiodras. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais tout le monde en Grèce connaît désormais ce monsieur et c'est ce que raconte le journal italien Sette, un supplément du Corriere della Sera. Sotiris Tsiodras est un infectiologue que le gouvernement grec a contacté directement après avoir vu la situation en Lombardie. Le gouvernement lui a fait comprendre qu'il fallait agir et tout de suite. Alors, Tsiodras savait que le système de santé était fragilisé par 10 ans d'austérité et que le pays n'avait pas les moyens de développer massivement les tests. Donc, sur ses conseils, la Grèce a imposé un des confinements les plus précoces, rapides et radicaux d'Europe. Dès la mi-mars, le pays a imposé une quarantaine à tous ceux qui arrivaient de l'étranger et a fermé ses frontières. Et le 23 mars, ça a été confinement total, et ce pour plus d'un mois. Ce choix de prudence a porté ses fruits. Mi-mai, ramené à la population, la Grèce avait un nombre de morts 10 fois inférieur à la France, donc en moyenne rapporté à la population. Et autour du 20 mai, en 3 jours, elle a enregistré seulement 16 nouveaux cas et seulement 22 personnes en soins intensifs. Ça, c'est pour un pays de 10 millions d'habitants.
Mais la grande question aujourd'hui, c'est celle de la relance économique. Et le pays va-t-il aussi bien s'en sortir sur ce front-là ?
Alors pour Alex Patelis, conseiller économique du Premier ministre grec, derrière cette réactivité se trouvait un objectif clair. Pour lui, et je le cite, « plus un pays est efficace dans la lutte contre la pandémie, plus la reprise sera forte. Ceux qui auront du mal à se déconfiner subiront une pression économique plus importante. » Alors il faut dire que la Grèce commençait tout juste à se relever d'années de crise. Le pays est donc particulièrement fragile. En plus, la Grèce est tributaire du tourisme, secteur le plus touché par la pandémie. Donc, malgré l'implication remarquable de Sotiris Tsiodras, la Commission européenne prévoit un effondrement du produit intérieur brut grec de 9,7%. C'est la plus grosse chute en Europe.
L'Europe toujours dans le courrier, mais avec un angle bien particulier. Qu'est-ce qui se cache, Ingrid, derrière le terme « maximator » ?
Frédéric, à l'origine, Maximator, c'est le nom d'une bière munichoise très populaire. C'est autour d'une Maximator, donc, qu'un soir de 1979, un Danois, un Suédois, un Allemand et un Néerlandais se sont rencontrés dans un bar. Attention, c'est pas une blague. Et ils ont donné le nom de Maximator à une alliance d'espionnage entre les services de renseignement de 5 pays européens, dont la France. Cette histoire a été révélée par un professeur néerlandais en avril à la revue Intelligence and National Security et repris par le magazine britannique The Economist. Alors, The Economist explique que Maximator est une alliance entre ces 5 pays pour intercepter et décrypter des messages codés et envoyés via les satellites par les services de renseignement des plus grandes puissances du monde. Et figurez-vous que ce réseau existe toujours et qu'il résiste depuis la guerre froide.
Et puis pour terminer, où les Britanniques vont-ils se rendre en vacances cet été? Vous nous suggérez Morecambe.
Oui, c'est le Daily Telegraph qui fait l'éloge de cette petite ville du nord-ouest du pays. Une petite ville, je cite, « morose pour voir la vie en rose ». Et oui, cette ville qui s'étend magnifiquement sur 310 km² de la côte du Lancashire a connu son heure de gloire à la fin du 19e siècle. Elle a un hôtel luxueux, le Midland, qui a accueilli des personnalités comme le roi Édouard VIII ou Coco Chanel. Autrefois terre d'ouvriers, Morecambe est aujourd'hui défrichi et abandonné. Autrefois, cette terre d'ouvriers a pourtant eu une image bon enfant et conserve cette image d'une autre Angleterre du passé. Donc, c'est un petit coup de cœur à voir, à découvrir pour vous, dès que les voyages seront un petit peu plus faciles.
Merci Ingrid Terva. Tous ces sujets sont à retrouver dans le numéro de cette semaine de Courrier International qui titre en une « L'Amérique se révolte ». À bientôt.
À bientôt Frédéric.
On termine avec la chronique musique de Vincent Teval et vous nous parlez de Matt Elliott, un Anglais finalement très européen.
Sylvie, aujourd'hui en France, Matt Elliott est originaire de Bristol en Angleterre. C'est là qu'il a commencé à enregistrer des disques il y a près de 25 ans sous le nom de Third Eye Foundation avec une musique électronique assez torturée. Ce projet existe toujours, mais depuis 2003, Matt Elliott enregistre essentiellement des disques sous son seul nom et s'est rapproché de sonorités plus acoustiques et d'un folk qui emprunte à des origines très variées, à l'est comme au sud de l'Europe. Son 8e album vient de paraître, il s'intitule Farewell to All We Know, un adieu à tout ce que nous connaissons, qui sonne aussi comme des retrouvailles avec cette voix superbe, comme un murmure grave, accompagné par un jeu de guitare virtuose et de somptueux arrangements de piano et violoncelle.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Laurie Plisson. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux.